Vous écoutez
RMC.
RMC.
Verratti n'arrive sûrement pas comme titulaire. Je vous fais le pari qu'il sera rarement même dans les 18.
On m'a des facio des fois. Moi, j'ai jamais des facio parce que j'ai des facio, je prends 10 mètres.
Monsieur, le carton, il faut donner le carton.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. Après Génération After, l'After comme tous les soirs sur RMC jusqu'à minuit avec ce soir Florent Gautreau. Salut Flo.
Salut à tous.
Daniel Riello. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Messieurs, au programme de l'After jusqu'à minuit, l'équipe de France demain soir, France-Chili à Marseille. Nos infos, compositions probables. On écoutera Kylian Mbappé également, qui est revenu sur la défaite face à l'Allemagne samedi soir. Avis tranché de Daniel, justement, le match de samedi est le symbole de la faillite technique du football français. Flo, lui, veut que Deschamps sorte du placard. Le 3-5-2 en équipe de France. Dans la deuxième heure, on parlera, tiens, semaine de Marseille-PSG. C'est dimanche soir, sera sur RMC. Marseille fragilisé par beaucoup d'absences, encore plus qu'avant la trêve, alors qu'on misait sur les 15 jours pour régénérer et vider l'infirmerie. C'est loin d'être le cas à Marseille. Faut-il craindre le pire pour l'OM dimanche soir? Et puis on finira avec le procès Saïd Chaban, propriétaire du SCO d'Angers, qui a ouvert aujourd'hui à Bobigny, poursuivi pour blanchiment sur fond de commission et de faux agents. Nicolas Pelletier viendra expliquer l'affaire, qui a priori loin d'être un cas isolé dans le football français.
C'est surtout
français.
Pour ça que c'est intéressant.
Exactement.
Parce que c'est révélateur du fonctionnement de beaucoup de nos clubs.
Ça met en lumière,
et des dérives présidentielles dans pas mal de clubs.
C'est parti pour l'After. Vous nous appelez au 3216, le hashtag RMC Live. Puis vous le savez, on est en direct sur la chaîne YouTube de l'After. @after-foot pour nous voir, vous abonner également, vous êtes 141 000 désormais sur la chaîne de l'After, et puis commenter, le chat est ouvert comme tous les soirs. Alors demain soir à Marseille, France-Chili, voici nos infos compo probables, celles du collectif équipe de France d'RMC Sport. 9 changements par rapport à l'Allemagne.
Et qui le collectif? Est-ce que tu peux citer les noms?
Jeannot Rességuier, Fabrice Hawkins, Arthur Perrault.
Voilà.
C'est un trio.
C'est la compo.
C'est l'équipe de Coupe Davis.
Notre compo, elle bouge pas, celle-là, tu vois. C'est la même samedi soir.
La Coupe Davis, c'est 4, Flo, excuse-moi.
Non.
Il y a un remplaçant.
4, c'est 4.
Tu peux pas la faire à 3, t'as pas le droit.
Non, t'as pas le droit. Non,
si tu fais jouer les mecs de double qui jouent déjà le simple, tout ça, ça.
Non,
tu peux pas
4,
partir.
Il y a 4 mecs,
si, c'est
après,
possible.
Ça veut pas dire que les 4 jouent.
Ah ouais.
Mais il faut qu'ils soient 4.
Il y a 4 sélectionnés.
Voilà.
Ouais. Et ce serait qui, ce 4e d'ailleurs, là, dans la Team France et RMC, si.
À 4e.
Les staffés, tu vois, en cas de blessure.
Nico, ouais, Pelletier. Exactement, Nico Pelletier.
Nico Pelletier. Okay.
Alors, 9 changements prévus. C'est pas une sanction. C'était plus ou moins annoncé par Deschamps. Mike Maignan, préservé contre les Allemands en raison de douleurs au disque jambier, sera titulaire. Devant lui, Klaus à droite, Saliba, Konaté dans l'axe, Théo Hernandez à gauche. Devant milieu terrain, donc Tchouaméni, Kamavinga, Fofana. Et devant, Randal Kolo Muani à droite, Olivier Giroud devant, et Kylian Mbappé qui lui va enchaîner en revanche. C'est un des seuls qui enchaîne avec, le seul qui enchaîne avec Aurélien Tchouaméni. Selon nos infos également, je complète.
Ça va pas plaire.
Vous commentiez là. Vas-y.
Ça va pas plaire à Lucien Riquet, ça. Pourquoi? Le dimanche, il est censé le faire jouer.
Oui, c'est vrai. Mais non, mais.
S'il a fait 3 matchs en une semaine, à mon avis, il va peut-être le faire souffler dimanche.
Ouais, mais t'as vu.
Ah bah, dans sa préservation de l'état de forme.
Peut-être parce que Deschamps sait qu'il ne jouera pas dimanche, qui se permet de le faire jouer demain.
Bah surtout, il sait.
Je sais pas, moi.
Non, c'est que Deschamps sait qu'il n'a pas joué autant que d'habitude, donc il peut se permettre de le faire
aussi
jouer dimanche de suite.
Ouais.
Merci, Lucien Riquet, de gérer pour l'équipe de France.
Tout à fait. Alors, Deschamps a fait savoir, évidemment, qu'il n'avait pas apprécié ce qu'il a vu samedi soir. Séance vidéo aujourd'hui, il a regretté le manque d'agressivité, d'intensité, qui ne pardonne pas à ce niveau, selon ses mots. Il a recadré ses joueurs sans être alarmiste. Il n'est pas inquiet pour la suite, mais voulait marquer le coup pour que cela ne se reproduise pas, alors que cette fenêtre internationale est la dernière avant la préparation à l'Euro en Allemagne dans moins de 3 mois désormais. Mbappé qui va donc enchaîner, il était en conférence de presse d'avant-match. Pour la deuxième fois consécutive, c'est la première fois. Il a expliqué, c'est parce que son équipe a perdu et qu'il se devait d'assumer cette responsabilité, c'est ce qu'il dit. A-t-il reconnu lui aussi qu'il n'a pas été bon samedi, qu'il n'a pas pris part à la contre-performance de l'équipe de France, ou à la bonne performance plutôt? Sa réponse.
Non, je pense que c'était pas assez. On a été dépassé. C'était plus que du leadership. Si on devait résumer ça seulement à du leadership, le leadership a été défaillant, ça c'est clair. Maintenant, quand on regarde le match de samedi, on a été complètement dépassé sur pas mal d'aspects. Mais bien sûr que je suis d'accord avec vous sur tous les aspects, et le leadership y compris, on n'a pas été au niveau. Après, comme j'ai dit, c'est des indicateurs. Mais il n'y a pas de vérité absolue. Je veux pas négliger, parce qu'un match amical international, il y a rien de plus important que la sélection, mais c'est quand même un match amical. Mais il faut prendre conscience que si on joue comme ça dans les matchs qui nous attendent, On peut aller au-delà de grosses déconvenues et on veut pas que ça nous arrive. Donc c'est à nous de réagir dès demain pour pas installer, comme ils ont dit avant, un certain doute dans l'équipe qui n'existe pas actuellement.
C'est rare qu'il se plante sur les expressions.
Au-delà de grosses déconvenues,
il a voulu citer Aimé Jacquet et il a mal fait. Bon, peu importe. Bon, il était donc en conf de presse. C'est vrai qu'il est passé un peu en travers des mailles du filet. J'étais là hier soir avec toi, Flo. Samedi soir aussi.
Quelle maille du filet.
Comment vous jugez l'équipe de France a été critiquée individuellement. Milieu de terrain, défense centrale. Vous l'avez trouvé comment, vous, samedi soir, d'abord, Mbappé?
Comment tu veux le trouver?
Non, mais tu veux dire, pas bon, très mauvais, démissionnaire, absent.
Il y a une discussion possible sur son niveau. Mais toute l'équipe a été nulle et Kylian Mbappé est archi mauvais.
Ouais.
Tous ces, mais quand tu le vois même pas courir ou même pas bouger, forcément ça t'étonne encore plus. Enfin, toute l'équipe est à la ramasse. Donc comment tu veux, tu veux débattre de son niveau?
Ici, il y a un point supplémentaire quand même qui revient à un truc pour lequel j'ai milité, mais je sais pas si c'était une bonne idée, c'est le capitana. C'est-à-dire que dans ce match-là, dans ces conditions-là, dans ce qui est arrivé, l'accident qui se dessine dès la première minute. Non seulement tu le vois pas, bon là effectivement Daniel a raison, techniquement pas plus que les autres et tactiquement même dans le match, mais tu n'as pas, il parle de leadership, c'est assez marrant qu'il ait employé ce mot plusieurs fois là dans la conférence de presse, tu ne le vois pas non plus si tu veux dans un rôle de remonteur de bretelles, de prise de parole, de réunion des joueurs. Je me souviens puisque le débat c'était Mbappé.
Tout le monde a failli.
Ouais, mais c'est intéressant de voir que puisque tu parles de jeu, on peut être d'accord, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Moi, je parle d'autre chose. Je parle justement de ce dont il aime bien parler, à savoir de leadership. Et moi, ce que je vois de plus en plus, c'est que quand ça ne va pas, Mbappé a quand même la tendance à baisser aussi la tête, à ne pas ressortir du lot. Et je pensais que le fait de lui mettre le brassard, tu vois, allait le faire évoluer là-dessus. Et je ne trouve pas qu'il évolue beaucoup. Je me souviens d'un match que vous avez vu, j'étais sur place à l'époque, à l'Euro 2004. C'était déjà quelque part, tu sais, le crépuscule de l'équipe de France. On ne le savait pas forcément à ce point, mais ça l'était. Le match France-Croatie. À la mi-temps, il se passe un truc pour tous ceux qui disaient que Zidane était un taiseux, avec qui il ne se passait jamais rien. En fait, Zidane, il réunit les mecs sur la pelouse, tu sais, dans un long moment, en cercle, au centre du terrain. Je veux dire par là, il y a des tas de façons de faire et de dire. On soigne par cœur avec les Bleus en basket. Ce que je veux dire par là, c'est que Mbappé, il a plein de qualités. Je pensais qu'il aurait celle-là aussi. Je trouve
pas. On n'était pas dans le vestiaire à la mi-temps. Hein.
Non, c'est vrai. Mais en règle générale.
Deschamps l'a fait comprendre quand il dit vous attendez pas que Kylian crie sur tout le monde. Mmh. Voilà, c'est pas ce genre de leader-là.
C'est intéressant de voir que Loris non plus, d'ailleurs.
Mais Griezmann l'aurait pas
forcément été non plus. Tu te rappelles dans les films qu'on avait vus,
Loris a été capitaine 10 ans, on n'imagine pas que un leader agacé.
Et pour moi, il prenait un peu la parole également dans le vestiaire de Loris. Attention.
Ouais, non, mais pour moi également, c'est un problème.
Pour moi, c'est le même problème.
Ça se joue là, moi.
Non, mais je pense qu'en l'occurrence, si on veut analyser ce match en plus à ce biais-là, il n'a pas non plus, comme d'habitude d'ailleurs, il n'a pas montré quoi que ce soit. On manque d'ailleurs d'un capitaine comme ça. C'est-à-dire que Deschamps était un capitaine qui était écouté par tout le monde. Non, mais d'accord, mais je te le dis parce que c'est important.
Pogba n'étant pas capitaine a été aussi un leader vocal également.
Ou Varane aussi, on l'avait vu dans le
ouais, Varane aussi.
Dans ces cas-là, dites que soit il n'y a pas de leader, soit que les leaders ont failli. Si c'est ça que vous voulez dire, peut-être. Mais moi, ce match, je l'ai déjà oublié. La catastrophe que j'ai vue, elle m'a amené à me poser plein d'autres questions sur notre football. Moi, tu perds contre l'Allemagne dans un match amical, puisque de toute façon, tout ce qui est mis en avant, c'est état d'esprit, caractère, agressivité, conditions athlétiques et tout ça. De toute façon, on sait très bien comment on ira à l'Euro. Et à l'Euro, on sait très bien qu'on ira en favori et que les Bleus peuvent faire une belle performance. On verra toujours le même genre de performance et on verra toujours le même genre d'équipe de France. Moi, c'est ça qui me casse la tête depuis des années. Et c'est de ça dont je parlerai dans un instant.
Et on en parle maintenant.
Sur l'état de performance des Bleus, le match de samedi, je m'en fous. On sait très bien que match amico, je ne vais pas commencer à dire que ça compte ou que ça compte pas. Tu peux me dire, demain soir, il va y avoir une réaction parce qu'il joue le Chili. Mais qu'est-ce que m'en fous de jouer le Chili ?
France-Allemagne, c'est pas un match.
C'est plus complexe que ça, Daniel, quand même. On a moins de 3 mois de l'Euro.
Moi, les éliminatoires, je m'en fous un peu. Je suis comme toi. Mais moi, le France-Allemagne, où tu as déjà perdu à Dortmund.
Très bien.
À France-Allemagne, pour nous, c'est absolument. 82. Moi, si tu veux, ça passe pas. Non, mais moi, ça passe pas depuis 82.
Toi, ça passe pas peut-être, mais jouerait-il
Je pense que les joueurs, ils vont avoir la même attitude. Non.
Ils ont pas cette mémoire-là, ce traumatisme-là.
Nicolas, l'histoire des Bleus, si ces mecs-là sont pas rentrés comme il fallait déjà, alors que c'est un match contre l'Allemagne, hors tout, c'est-à-dire que ce soit qualif, match amical, compète, déjà c'est un très gros problème. Je pense. Bah non, si vous pensez pas ça,
de toute
pas
façon. Grave. Mais si, mais encore une fois, moi je te contredis pas. Je là-dessus, ça m'intéresse moins exactement comme c'est ce que je vois qui m'inquiète. C'est ce que je vois de l'équipe qui me plaît pas et qui me plaisait pas à la Coupe du Monde, qui me plaît pas depuis des années. Et là, quand tu vois qu'on parle du match de demain. Comme du match où il va falloir avoir une réaction. Une réaction de quoi? Une réaction entre deux matchs amicaux. Ok, demain il fait tourner, il y aura 9 nouveaux joueurs. Donc, quand bien même il y a une réaction, s'il devait y avoir une réaction, c'est la réaction des mêmes joueurs. Si c'est la réaction d'autres joueurs, qu'est-ce qu'on s'en fout? On leur a oublié le match de samedi si c'est pas les mêmes. Si tu mettais les mêmes, ils pouvaient être dans une opération rachat, mais c'est pas le même adversaire. C'est un adversaire qui est plus faible. Qui est même pas à 3 mois de jouer à 1 euro, qui va carrément être en touriste. Ils vont venir en touriste, les Chiliens. Et qu'on s'attend à quoi demain soir? Genre demain, les Bleus, ils gagnent 5-0.
Non, mais tu n'auras pas de commentaire comme ça, Daniel.
Qu'on a à foutre, en fait.
Mais tu n'auras pas de commentaire derrière pour dire c'est bon, les Français si retrouvés. L'équipe de France,
Nico, mais tu auras le rachat. Tu auras, oui, c'est la thèse de l'accident. On retient la thèse de l'accident contre l'Allemagne, tout ça. Bon, voilà. Après. Continuons, si vous voulez, à évoquer le match. Vous l'avez fait samedi soir, hier soir.
On l'a fait.
Vous avez parlé. De toute façon, ça va très vite. Hein. La performance individuelle des joueurs, ils ont tous été mauvais. Donc, je pense que
allons plus loin.
Parce que là, vraiment, entre ça et la fameuse opération rachat sur un match qui est encore plus en bois que celui de samedi, et Flo a pas complètement tort en disant que malgré tout, même dans les matchs amicaux, t'as des matchs amicaux qui sont un peu différent des autres parce qu'il revêt un prestige, il rappelle une mémoire. Et c'est vrai que se déchirer complètement en termes de détermination contre un tel adversaire, là, je le rejoins. C'est moyen, je trouve. C'est moyen. Voilà. Mais je pense qu'il y a plus grave.
Bon, dans un instant, ton avis, justement, sur la faillite technique du football français symbolisée dans ce match, notamment et pas uniquement. D'abord, le direct. Le direct, c'est l'équipe de France U23 de Thierry Henry. Match amical entre la France et les États-Unis sous les yeux de Patrick Muller. Salut, Patrick.
Salut Nicolas, salut tout le monde. À Sochaux, effectivement, dans ce stade Auguste Bonal, 1-0.
Belle reconversion pour Patrick Muller.
C'est fort. Rare les footballeurs qui deviennent journalistes.
Oui, c'est vrai. Presque autant de cheveux que lui en plus. 1-0 pour les hommes de Thierry Henry. Après 50 minutes, le but est signé du René Kalimuendo tout à l'heure, la 26e, sur pénalty. Et entame un tout petit peu chahuté pour ses bleuets dans cette deuxième période. Même si, on ne va pas se mentir, le rythme n'est pas complètement dingue dans ce match amical avec une équipe. Française remaniée qui, ceci étant, maîtrise quand même globalement son sujet. 50 minutes et 1-0 donc pour les hommes de Thierry Henry face aux États-Unis.
Tout à l'heure, vous me direz quels sont les trois joueurs âgés de plus de 23 ans que vous prendriez aux Jeux Olympiques.
Buteur en finale de la Coupe de la Ligue. Hein. Ouais, Léon.
Hein, possible.
Bah, il doit le savoir. Hein. Il a marqué. Hein.
Arrêtez, c'est lourd.
Lui,
lourd. Allez, c'est parti. Avis tranché, Daniel Riolo. Le match de samedi est le symbole de la faillite technique du football français. Alors, on fait ça dans un instant, après la pause, car c'est l'heure de la pause. Et reste avec nous dans l'after, avec Daniel et Flo. On est ensemble jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamain.
Avec Flo Gautreau, avec Daniel Riolo, l'after, comme tous les soirs, jusqu'à minuit, à la radio sur RMC, en direct à la télévision, sur la chaîne YouTube de l'after. Tiens, je vous rappelle également que c'est le grand retour du coffre RMC. Nous vous offrons jusqu'à 50 000 euros, hein, dès que vous entendez ce signal-là. Vous aurez 5 minutes pour envoyer coffre au 732-16 et vendredi 29 mars, l'un ou l'une d'entre vous sera avec nous dans l'émission pour ouvrir le coffre. Si vous êtes sélectionné, vous repartez avec la somme de 2500 euros. Mais vous pouvez aussi remettre en jeu cette somme en ouvrant le coffre RMC. Et si vous osez l'ouvrir, vous gagnerez soit une semaine de vacances dans un des campings Tikayan en France pour 6 personnes, soit la somme de 50 000 euros. Vous envoyez coffre au 732-16, coffre au 732-16. Et puis je vous rappelle que LR peut retentir à chaque instant. Restez bien à l'écoute d'RMC, elle peut tomber plusieurs fois par émission et même pendant les publicités. Daniel, sur l'équipe de France donc, et sur le foot français en général, tu estimes que le match de samedi a montré, illustré la faillite technique du football français. Jingle, Daniel Riello.
S'il n'y a pas d'offres, on parle de quoi en fait? Et il y en a des offres?
Et il n'y en a pas.
Il n'y a pas d'offres.
C'est que ça. Ah. La vérité, c'est qu'il n'y aura jamais d'offres en fait.
Il n'y a
pas d'offres.
Bah, je pense qu'il y a eu quand même une offre d'emploi.
Oui, une offre d'emploi, mais ce que tu voulais dire, c'est qu'il n'y a pas d'argent sur la table pour le transfert.
Mais l'été dernier, il n'y avait même pas d'offre d'emploi. Enfin, si, elle était différée, quoi. Elle n'existait pas l'été dernier. Bon, alors, plus qu'un avis tranché, je pense que c'est vraiment une discussion qu'il faut qu'on ait ensemble. Et vos avis vont m'intéresser. Donc, j'ai passé, après la catastrophe de samedi soir, un peu du dimanche et un peu d'aujourd'hui à parler avec des formateurs. Parce que... moi, ce qui m'a choqué samedi soir, encore une fois, le résultat, est-ce que c'est grave, est-ce que ça signifie quelque chose en vue de l'euro et tout, je m'en fous, je laisse ça de côté. Je vais démarrer mon raisonnement par les propos que j'ai entendus suite à la défaite. Donc, en lisant les articles et les déclarations. Deschamps se dit frustré par le manque d'agressivité et de détermination. Il pointe un petit peu plus loin dans un autre article le déficit athlétique. J'entends également parler d'un état d'esprit qui a été défaillant. Et moi, toutes ces phrases-là, moi, en fait, j'en ai marre. Parce que, en France, je pense qu'on a arrêté depuis longtemps de parler de foot et de jeu. Étant donné qu'on a gagné de cette façon-là et que, de toute façon, c'est coulé dans le marbre définitivement que Deschamps ne voit le foot que de cette façon-là, que, de toute façon, on ne peut pas le voir autrement. Et je vais même te dire, je crois qu'on ne... Nous, on ne peut pas le voir autrement et lui ne peut pas, tout simplement parce qu'il ne peut pas faire autrement. Parce qu'il n'a pas les joueurs pour faire autre chose. Samedi soir, sur le terrain, en face, tu avais Kroos, Gundogan, Musiala, Kimmich, Fritz, Havertz. Je m'arrête juste là.
Wirtz.
Qu'est-ce que j'ai dit ?
Fritz.
J'ai fait un raccourci allemand, un peu basique.
Oui.
Pardon. vous me citez un joueur dans l'équipe de France qui techniquement s'approche de ça.
Il n'y avait pas Papa Schultz.
Il y en a un, mais il n'est pas là. Voilà. On le sait tous.
C'est qui ?
C'est Griezmann.
Non.
Et quand même, Daniel. Non.
Griezmann n'est pas français. Je me tue à vous le dire depuis 10 ans. Griezmann n'est pas un joueur
d'accord.
français.
D'accord. Okay, ok.
Griezmann n'a pas appris le foot en France.
Il a 13 ans en Espagne.
Espagnol de formation.
Pays basque.
Voilà. Ça change tout déjà de comprendre ça. Parce que, en fait, au bout d'un moment, que tu puisses gagner avec des joueurs athlétiques, un état d'esprit, de la détermination, parce qu'il y a des qualités que nous, on a, que d'autres n'ont pas. Parce que si les Allemands, depuis des années, et depuis un peu leur faillite post-victoire en 2014, et Polo nous le dit assez souvent, ils avaient, à côté de tout le travail qu'ils ont fait au niveau de la technique, ils avaient notre mentalité, notre caractère, notre état d'esprit, je pense qu'ils auront enchaîné avec d'autres titres, plutôt que de se planter dans les premiers tours avec des très belles équipes. Parce que ça aussi, ça peut être un défaut.
C'est marrant, c'est un front renversé, ce qu'on disait dans les années 80.
Oui.
On avait le talent et pas la puissance, et ils avaient la puissance et moins de talent.
Il manque certainement des choses également aux Espagnols. Quand tu les vois jouer à l'Euro, à la Coupe du Monde, ils ont des joueurs d'une qualité technique que nous, on n'a pas. S'ils les font comme ça. Bon, ok, très bien. Mais moi, au bout d'un moment, quand je vois le match de samedi...
Ah, pour répondre à ta question, on en a un. Par exemple, sur le match de samedi, avec les imperfections qui existent, mais c'est Dembélé.
Non. Non, non, bah moi je le mets pas là-dedans.
Ah oui, mais dans ce cas-là, ouais.
Attends, si tu parles de quoi ? Tu parles de joueur créatif ?
Joueur créatif,
milieu de terrain.
Non, mais techniquement, en fait,
alors, ouais, mais c'est quoi le joueur type pour toi ? C'est un Bellingham.
Je te parle d'un truc qu'on ne fait plus en France, mais je vais vous expliquer parce que j'ai parlé avec des formateurs et je vais vous dire. Le rapport avec le ballon. Le rapport avec le ballon, je sais pas, moi je vais pas te prendre Messi parce que ça paraît évident que vous allez comprendre, mais si tu prends Di Maria, si tu prends un Dybala, si tu prends Foden, qui en a d'autres, bon les Allemands j'ai cité un Grealish,
tu prends en Espagne un Pedri,
Bellingham, les Espagnols tu peux tous les prendre. Ouais. Donc ça sert à rien. Mm-hmm. Bernardo Silva, une bonne partie des milieux de terrain portugais, la liste tu vas en avoir beaucoup des joueurs et dans tous les pays. Dans beaucoup de pays. Nous, si tu me prends Dembélé, alors attention, ça va être compliqué à entendre, mais Dembélé, il pousse le ballon, il accélère. C'est pas moi le rapport au ballon. Je vous dis pas que c'est pas un bon joueur.
Je suis d'accord, mais c'est réducteur quand même pour Dembélé, pour le dribble. Mais bon, après
même Mbappé.
Je vais revenir sur les milieux de terrain
parce que les attaquants soient dans le foot d'aujourd'hui des mecs rapides qui sont des mecs, parce que la grande phrase de la formation française c'est faire des différences. Tous les entraîneurs dans les petits clubs partout, c'est est-ce qu'il fait ou non des différences. Revenons au milieu de terrain, parce que si à partir du moment où tu raisonnes comme ça que en attaque tu valorises des Dembélé, des Mbappé et tout ça, c'est très bien. Moi je suis pas fan, mais je vois que dans le football d'aujourd'hui ça marche bien. Je suis pas totalement fan de ce genre de joueur. Moi, j'ai toujours dit, j'aime bien les mecs, le rapport au ballon. Je ne sais pas comment appeler ça. Je pense qu'on comprend ce que ça veut dire.
Kevin De Bruyne, Zidane, Kevin De Bruyne, on est l'incarnation.
Même Hazard, ce genre de joueur-là. Bon, voilà. Nous, on a arrêté de fabriquer ça. Parce qu'on fait des. On est devenu, ça fait 10 ans que je dis, une usine à joueurs, que nos clubs fabriquent des joueurs pour les vendre de plus en plus tôt et qu'ils ne finissent pas leur travail de préformation. Quelque part, c'est ce que j'ai dit, et certainement mal. Peut-être mal dit, même si moi j'assume tout ce que je dis, d'un joueur comme Barcola. Moi je pense qu'on va péter, à moins que Lucien Riquet réussisse à récupérer tout ça, mais tu pètes la fin de la formation technique à les lancer si tôt. Tu en fais des joueurs qui éliminent. Tu en fais des mecs qui éliminent, qui percutent, qui font des différences. Mais avec le ballon, ils ont, au bout d'un moment, il y a une limite. Il y a une limite. Alors, tu peux compenser par le mental, par tout ce que tu veux. Et on m'a dit un truc aujourd'hui. Les Argentins, en fait, quand ils apprennent à jouer, dès qu'ils ont 8 ans, on les oblige à faire la passe vers l'avant. Même à un joueur qui est entouré par des défenseurs. Ils travaillent tellement ça que, de toute façon, on fait tellement confiance à la technique qu'ils vont avoir quand ils vont recevoir le ballon. Ils bouffent tellement de ça, de « je reçois le ballon dos au but ». Tu parlais de qui, là, tout à l'heure, pendant la pub ?
Kalimundo.
Kalimundo. Bon, Kalimundo, il est titulaire des espoirs, honnêtement. Je ne veux pas l'offenser, mais techniquement c'est une catastrophe. C'est une catastrophe techniquement. Il fera peut-être une belle carrière, tout ce que vous voulez, mais tu vois ça, parce que nous. Mais après c'est un choix, hein, attention, hein, c'est un choix. Dans ma critique, la France fait un choix qui l'a pas empêché d'être championne du monde en 2018.
Ça, est-ce grave
et de fait. Vendre des joueurs. Mais
est-ce que c'est même une limite au niveau international? C'est ça la question.
Déjà, c'est grave déjà. Parce que tu as le droit de préférer un football à un autre.
C'est une sensibilité, ça. Ouais.
C'est une sensibilité. Tu as le droit aussi de te dire que tu vas en finale de la Coupe du Monde en étant un chouïa. Mais après, on peut mettre en avant la mentalité. Hein. Moi, j'aime bien qu'on soit très fort en caractère, en mental et tout. Mais la Coupe du Monde, le match contre la Pologne, l'Angleterre, le Maroc et les 80 minutes contre l'Argentine, après, tu as tombé du ciel un Mbappé stratosphérique qui t'empêche de finir la finale cul nu. Très bien. Mais dans le jeu. Enfin, je crois qu'on est tous d'accord depuis des années pour dire que, tiens, au milieu de terrain, on aimerait bien de temps en temps. Parce que Tchouaméni, j'ai rien contre lui. Mais au Real, quand il joue avec Kroos à côté de lui, plus Modric cette année, mais si on parle du Modric décédé. Nous, on n'en a pas des joueurs
mais
comme
Daniel,
ça.
Mais Daniel, t'as passé des coups de fil à des formateurs.
Depuis Zidane, en bleu, qui a enfilé le maillot bleu, au milieu de terrain, qui on a eu comme joueur vraiment technique?
Bon.
Dans le rapport au ballon.
T'as un peu Yohan Gourcuff qui n'était pas installé en équipe de France.
Gourcuff, ok, après.
T'as Gourcuff, t'as.
Ça va être compliqué, hein, j'ai cherché. Hein.
Meriem n'a pas assez installé
non,
en bleu, évidemment. Fekir est plutôt à l'aise avec le ballon.
Et Fekir, il a malheureusement, regarde sa carrière.
Ah non, il a disparu d'équipe de France.
Je vais t'expliquer pourquoi on a également un problème avec Fekir,
Miku,
ce genre de joueur-là.
Miku.
Il n'a pas fait Miku, très beau joueur, mais il n'a pas fait carrière en équipe de France. Bon, Pogba, on ne peut pas l'oublier. En équipe de France, même si en club ça a été plus compliqué.
Et Griezmann.
Mais en équipe de France, et Griezmann qui n'est pas un joueur français. Et Pogba a fait sa post-formation à l'étranger, il est parti très tôt.
Mais justement, Daniel, ce qui m'intéresse, t'as passé des coups de fil aujourd'hui, t'as appelé des formateurs, ça veut dire quoi? Il regrette de ne pas avoir ces profils-là ou de ne pas développer les profils plus techniques.
Alors, quand tu développes un profil comme Cherki, qui est un joueur technique. La façon dont tu le. En fait, moi, on m'a dit une phrase que j'ai trouvée intéressante, c'est si tu fais monter un jeune trop vite parmi les pros et qu'il ne joue pas, tu gâches sa post-formation. Parce que s'il ne joue pas, plutôt que de rester avec nous,
on l'entend.
Plutôt que de rester avec nous et de continuer à travailler, à ressasser le travail, à faire des mêmes gestes indéfiniment, si tu le lances tôt, bah en fait, il ne travaille plus parce que quand tu es dans le groupe pro, tu travailles moins paradoxalement, contrairement à ce qu'on pense. Parce que tu as beaucoup de récupération, tu as des entraînements qui sont très ciblés en vue du match, très axés performance. Et finalement, tu arrêtes de bosser sur ces aspects-là. Quand tu prends plus le caractère de Cherki, qui fait que à un très jeune âge, déjà ça devient une valeur marchande extrêmement importante pour son club, qu'on, en gros, on le met limite sur le marché en parlant de sa valeur et tout ça. T'as cassé son évolution et déjà, déjà dans sa tête, il est déjà fini. Alors qu'il n'est pas fini, parce qu'il a toute l'intelligence, sa technique mise au service du collectif, il ne l'a pas travaillé. Et d'ailleurs, Pierre Sage, c'est ce qu'il essaye de faire, il se casse la tête avec ça, comme d'autres se sont cassés la tête avant. Parce qu'on en a quelques-uns des joueurs comme ça. T'as la catégorie de ceux qui, probablement, n'avaient pas le physique et pas la mentalité. C'est ce que j'appelle les secondes catégories, c'est les Savagnier, des mecs comme Mollet. Tu sais, il y en a quelques-uns dans des clubs comme ça, des mecs qui étaient un peu techniques et tout. Mais bon, on n'a pas misé sur eux. Ils n'ont pas bossé, ils n'ont pas bossé sur certains aspects, peut-être que même physiquement, dans les, parce que de toute façon, tous les entraîneurs étrangers qui viennent le disent, que physiquement, notre championnat est difficile. Donc, on mise tellement sur le côté athlétique que, bah, on a du mal à développer ces joueurs-là. Et comme tu les lances trop tôt, ils n'ont pas le temps de se terminer. Après, tu as évidemment la donnée économique dans nos clubs qui est de les faire partir très tôt parce que de toute façon, le mec, dès qu'il arrive en pro, il dit « je m'en vais ». Enfin, je te prends un autre exemple intéressant qui est celui d'Akliouche à Monaco, qui est un très bon petit jeune. Mmh. Et ben, Monaco, ils ont pris le parti. Je ne sais pas si ça marchera. Il faut que le joueur veuille l'entendre. Et je le connais pas, je ne connais pas son entourage, mais on a l'air assez optimiste là-bas à Monaco. C'est qu'ils veulent prendre leur temps avec lui pour qu'il se développe physiquement, qu'on lui laisse le temps de beaucoup travailler. Pour en gros qu'il n'ait pas envie de se barrer trop vite.
Et sans dénaturer ses qualités. Et
parce que c'est un vrai joueur technique, c'est un vrai bon petit joueur, lui, pour le coup, tu vois. Tu prends en comparaison un mec comme Golovin à Monaco. Ce qu'il est capable de faire physiquement, quand il n'est pas blessé, hein, entre ses courses, ses efforts physiques et sa technique, bah, des joueurs comme ça, en Ligue 1, j'entends Kevin Diaz le dire souvent, il n'y a pas d'autres joueurs comme ça en Ligue 1.
Donc là, tu es en train de déresponsabiliser Deschamps, en fait. Deschamps n'a pas beaucoup de choix. Deschamps n'a pas le choix de faire appel à des joueurs créatifs, à part Griezmann, quelque part.
De toute façon, ce qui s'ajoute en plus à tout ça, c'est qu'en plus, lui, de toute façon, ce foot-là, déjà, ne l'intéresse pas trop. Mais en plus, il ne les a pas vraiment, les joueurs.
Oui, c'est ça.
Parce qu'on n'en a pas, nous, on n'en fait pas. Nous, on est dans le choix clair qui est fait sur le côté athlétique. On a des joueurs à 16 ans, 17 ans, déjà, c'est des masses physiques. Donc il s'impose par rapport à un mec un peu plus petit qui va être technique, qui va se faire manger et on ne développera pas cet aspect-là.
On va développer en revanche dans un instant la réaction de Flo. Tiens, il y a Patrice qui nous attend également au 32-16. Il y a beaucoup de réactions sur le chat de la chaîne YouTube.
Celui de samedi, honnêtement, je prends une claque dans la gueule parce qu'au bout d'un moment, j'en ai marre. Je dis attends, c'est pas possible. Tu les vois courir, le rapport au ballon, la passe, le petit dribble, le décalage, le machin. Nous, c'est bulldozer.
Nous, il faut casser des lignes par la puissance.
Voilà, nous, on écrase, on est machin, tu vois. Et puis, qu'est-ce que tu vas aligner? Je répète, au Real, Tchouaméni, il joue avec des mecs techniques. Et Tchouaméni, d'ailleurs, ça le met en valeur. Quand il joue en équipe de France, tu lui mets les mecs à côté, tu vas lui demander à lui d'être meneur de jeu.
Non, et d'ailleurs, il recule au Real maintenant.
Ben oui.
Restez avec nous dans un instant, on prolonge le débat avec Daniel, avec Flo, avec vous, 32-16 aussi. D'abord, le direct, rapidement, Patrick Müller, France, États-Unis.
67 minutes dans cette rencontre, 1-0 toujours pour les moins de 23 ans français face aux Américains. Le but de Kalimuendo à la 26e, c'est assez pauvre cette deuxième période, pour tout vous dire.
Allez, on revient dans quelques secondes sur RMC, c'est l'after, il est 22h30, à tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Avec Florent Gautreau, avec Daniel Riolo, c'est RMC, il est 22h32, 1-0 pour les U23, Thierry Henry face aux États-Unis. Après 71 minutes de jeu, Daniel pointe du doigt la carence technique de nos milieux de terrain français. On n'a pas de vivier, on n'a pas de créativité. Bon, à part Griezmann, on en a parlé absent. Flo, tu voulais réagir et après on accueille Patrice au 32.
Non, mais je suis d'accord, c'est une bonne analyse. Après. Le problème, il est que nos choix de DTN, nos choix d'entraîneur, nos choix de sélectionneur accompagnent ça depuis des années. C'est-à-dire que j'ai pas, tu vois, nos idées françaises incroyables, c'est-à-dire Jean-Marc Guillou, Gourcuff,
Cocosiodo,
ce sont des ovnis dans le foot français. C'est-à-dire que tous les gens qui ont eu des idées, les idéologues, on va dire, un peu du foot, tu vois, un peu parfois même dogmatique hein, pour certains, comme Chiodo, ils ont été satellisés complètement dans cette histoire-là. Donc, qu'est-ce qui nous reste? Il reste un truc que tout le monde a connu quand tu as joué au foot à n'importe quel niveau. Tu vois, moi, je me suis souvent dit comme ça, dans les niveaux auxquels j'ai pu jouer, je me suis dit, putain, quel dommage que je n'ai pas eu un entraîneur qui m'ait fait travailler ma technique.
Oui.
Parce qu'en fait, tu décelais une qualité chez un joueur. Je me souviens qu'on disait endurance, vitesse, technique. Si tu as deux de ces trois qualités, je me souviens de ça, tu peux réussir. Mmh. Tu te rends compte que ça veut dire que sans technique, mais avec endurance et vitesse, on considérait déjà que tu pouvais t'en sortir.
Oui, mais on a eu des footballs qui ont marché comme
ouais,
ça. Hein.
Mais tout à fait. Mais si tu veux, c'est assez quand même assez dingue de se dire qu'à un moment donné, on a eu la prise de conscience, parce que je me souviens qu'on s'est dit, et que plein de gens l'ont fait depuis. Ah, maintenant, entraînement pour les mômes, tout de suite avec le ballon. Parce qu'il y a eu toute une époque que j'ai connue qui était horrible.
On faisait gamin à l'école de foot.
Ah non, mais moi j'ai
contrôle le pied droit, pied gauche.
Sauf que pour être pro, pour atteindre ces niveaux-là, il faut bouffer des gammes.
Non, mais
il faut bouffer.
Et même pendant ta carrière,
la technique sous pression.
Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a eu toute une génération qui, justement, ne l'a pas connue. C'est-à-dire qui a connu l'obligation de faire beaucoup de choses sans ballon, avant même de toucher. C'était genre la récompense. Non, l'entraînement physique n'est pas fini.
T'as raison.
Donc ça, c'est quand même. Il y a quand même eu des générations de gens formés à ça. Donc on a une culture de ça en France. Qui est assez paradoxal, parce que dans les années 80, je pense que ça vient de là, on a trop perdu pendant un moment donné, enfin on a considéré qu'on perdait trop à cause de ça, à cause du football romantique. C'est-à-dire que globalement, certes, on a gagné l'Euro 84, mais si tu veux, on avait les meilleurs joueurs, on était le milieu le plus technique, on avait le carré magique, mais on avait
des footballeurs romantiques pour être des losers magnifiques. Voilà.
Et les gens ont dit, regardez, on n'est plus des losers, on va vous montrer qu'on est capable de palette. Pour moi, la Coupe du Monde 98 et la prépa de la Coupe du Monde 98 est catastrophique en termes de jeu. Il faut voir ça. En revanche, il se trouve que dans ces équipes-là, dans cette équipe-là notamment, on avait un joueur, et plusieurs, hein, des joueurs intelligents. On avait des joueurs, mais dont un qui était l'incarnation.
Mais on dit souvent que cette année-là, on a enfoncé un monstre.
Qui sont les deux joueurs les plus techniques de 98?
Zidane Djorkaeff.
Non. Zidane Laurent Blanc. Laurent Blanc est un joueur
3. D'une... Non mais d'accord, mais Djorkaeff.
Je mets Djorkaeff en dessous des deux premiers.
Ah ouais, enfin bon, si tu veux, mais enfin en gros.
Techniquement, Blanc était un ancien 10. En libéraux, c'était.
Mais peut-être.
C'était
peut-être.
Franchement,
la réalité, c'est que quand bien même tu avais ces joueurs-là, la façon dont Jacquet a fait jouer son équipe dans les mois qui ont précédé la Coupe du Monde.
C'est pas là où Zidane c'est le plus éclaté, ah non, ça c'est certain. À qui il va donner le ballon, avec qui il va jouer.
C'était dingue.
Le ballon c'est pas le but, c'est pas qu'il le garde lui, qu'il fasse son numéro.
Et tu sais que le virage qu'on n'a pas pris et qu'on aurait pu prendre, c'est suite à cette équipe-là, quand l'équipe s'est autogérée. C'est-à-dire quand il n'y avait plus de sélectionneur qui était Roger Lemaire, et que là les gars ont pris le pouvoir. Et là, tu avais une équipe technique qui jouait un petit peu, tu vois, comme il aurait fallu. Mais après, pour revenir juste à ce que disait Daniel, il y a plusieurs choses basiques. T'as un truc de dingue. C'est, tu vois, l'épisode Matic est intéressant à ce sujet. Donc Matic, il y a plein de débats, on peut revenir physiquement, etc. Et Matic, tu le mets sur un terrain de foot, tu regardes ses passes.
Ah oui, oui.
Tu vas sur un match de Ligue 1.
C'est propre.
C'est 87 passes 100% dans un match récemment avec Lyon et c'est pas des petites passes hein. Donc quand tu vois ça et que tu vois tu vois, je prends l'exemple de la passe parce que c'est la base au foot. Eh ben tu regardes ça sur n'importe quel match de Ligue 1.
Vers l'avant la passe.
Oui, mais en l'occurrence tu regardes un match de Ligue 1 que ce soit vers l'avant ou pas, la mauvaise qualité des passes est hallucinante. Et ça c'est finalement si tu commences par un seul truc, le contrôle évidemment, mais la passe. Regarde bien en Ligue 1 la qualité des passes.
Fofana le Monégasque en équipe de France, franchement, il est gentil. Ouais. C'est un mec qui, tu vois, mais c'est super limité quand même, quoi. C'est limité.
Le dernier point sur les joueurs, t'as cité ce qui est dingue.
Koundé arrière droit.
Mais la question Daniel, c'est pareil, c'est joueur. C'est la question des choix.
Il faut qu'on parle
des
joueurs.
Qu'est-ce que tu vois comme autre joueur?
J'ai un exemple.
Le problème, c'est qu'à un moment, il y a des postes où tu te dis, quand tu vois que Kimmich,
il y a beaucoup d'appels au
36. Kimmich, joueur arrière droit. Quand tu vois qu'à un moment, tu te dis, mais moi, je veux bien, on va encore essayer de gagner l'euro. Et vu le caractère qu'on a, vu le côté athlétique qu'on a, avec des finisseurs comme une accélération de Dembélé, un Mbappé qui, s'il est stratosphérique comme à la Coupe du Monde. Bon, ok, pourquoi pas? Mais réellement, si tu fais un bilan depuis 30 ans, les équipes nationales qui gagnent, les équipes de clubs qui gagnent la Ligue des Champions, franchement, ça pardonne pas, quoi. C'est que de la technique. Si tu prends, une finale que je connais bien, que vous connaissez tous, même 2006, la finale 2006. Quand on dit la France méridienne, la France physiquement est large au-dessus, mais techniquement en face, il y a des joueurs, même les latéraux, les centraux sont techniquement au-dessus. Et après, si vous prenez 2010, on ne parle même pas des Espagnols. 2014, l'équipe d'Allemagne. Bon, les années en club du Barça, c'est fantastique. Celle du Real, le milieu de terrain qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont, même les défenseurs, même Sergio Ramos, c'est un défenseur hyper beau techniquement. Vous pouvez remonter, il n'y a pas d'exception. Nous, on est la seule exception.
Qui confirme la règle.
On est la seule exception à ça.
Attends, tu vas réagir encore, Flo, mais il y a beaucoup d'appels au 32-16. Il faut accueillir Patrice. Salut, Patrice.
Salut, salut.
Bienvenue dans l'after avec Flo Gautreau.
Et Daniel.
Alors, oui. Tu nous écoutes. Est-ce que tu poses le même regard sur nos carences techniques
alors,
de notre football?
Alors, honnêtement, on n'est pas tout le temps d'accord, Daniel et moi, même si David se respecte. Par contre, là, en fait, il a dit quasiment tout ce que je voulais dire. Franchement, entre en fait la formation. Je suis supporter du Barça, moi, depuis plus de 20 ans, j'ai 36 ans. Quand j'allais jouer au foot, après avoir regardé le match du Barça, en fait, je faisais ce que je voyais à la télé.
Eh oui, t'avais envie de faire une belle passe.
Exactement.
Eh oui.
Donc, quand j'arrive sur un terrain de foot, même à mon niveau et en régional, hein, quand j'arrivais sur un terrain de foot, on me faisait courir, endurance, palier, sans toucher un ballon, moi, je pense qu'au niveau supérieur, c'est la même chose. Et quand je vois la résultante qui est la Ligue 1, eh bien, c'est exactement ça. Au niveau technique, au niveau les erreurs qu'il y a au niveau simple, des passeurs à 10 mètres, à 5 mètres. Moi, je pense qu'effectivement, on a un souci de formation déjà. Donc, pour moi, le mal, il faudrait le couper à la racine. Ça, c'est la base. Ensuite, quand on regarde l'équipe de France, par exemple, le seul joueur, effectivement, en l'état actuel des choses, qui a, entre guillemets, ces qualités-là, de meneur de jeu créatif, d'orchestrateur, de mec avec une vista, une vision de jeu, c'est Griezmann.
Ouais, c'est
et
vrai.
Bizarrement, c'est un mec qu'on a refusé en France.
Oui, c'est un Espagnol. C'est un Espagnol.
C'est un Espagnol. Donc moi, franchement...
C'est un Français qu'on n'a pas voulu, en fait. C'est ça la question.
Exactement.
C'est un Français qu'on n'a pas voulu et qui a dû partir en Espagne pour développer ses qualités naturelles.
C'est quand même intéressant de voir que Griezmann, il lui est arrivé ce qui a failli arriver à Platini. C'est l'histoire de Platini qui va à Metz et qui refuse et tout. C'est marrant parce que physiquement, c'est des petits bonhommes. Griezmann, pareil, après son transfert au Barça, au passage, tout le monde pensait que c'était fini, terminé, cramé et mort. Bon, il y a un truc en plus chez Griezmann. Non, un mot sur Cherki, par exemple. Parce que quand on parle de profil technique, Daniel en a parlé, tu as ce genre de joueur. Et c'est intéressant.
Il y en a quelques-uns.
Non, mais c'est intéressant de voir qu'il y a aussi une façon dont les entraîneurs ne savent pas les gérer. Je ne parle pas de l'aspect mental seulement. Le nombre de touches de balle. Tu ne vas pas me dire que... Je prends cet exemple parce qu'à Rennes, je suis l'évolution de Désiré Doué.
Oui, parce que
techniquement,
il faut pas que ça devienne tripoteur.
Voilà.
Il faut faire le bon choix avec ta technique.
Donc en fait,
ça s'appelle le travail technique dans le collectif.
Les joueurs techniques, tu les as, en quelque part. Ils existent. Et il y en a même qui sont formés en France, préformés en France. C'est le cas. Moi, je suis doué à Rennes. Et la seule question qui se posait depuis un an, il n'y arrivait pas vraiment à ce niveau-là, c'était est-ce qu'il va réussir à lâcher son ballon plus vite, plus souvent? Est-ce qu'il va se contenter d'une seule touche de balle ou parfois zéro, même en laissant passer le ballon? Il n'y arrivait pas. Et récemment, dans un match, j'ai perdu le match, mais je me suis fait cette réflexion-là à la mi-temps, je l'ai tweeté, on en a parlé sur RMC, et d'ailleurs, il est avec l'équipe de France Espoir, il progresse, il a ce truc-là, j'espère qu'il va le garder. Donc, oui, peut-être Stéphane, peut-être ses formateurs à Rennes qui sont toujours là. C'est important de voir ça parce que Cherki est l'exemple type d'un joueur qui pourrait être ce joueur que tu réclames, Daniel, comme on a vu Wirtz et Moussiala, mais qui, pendant des années, tu les regardes et tu ne les vois plus progresser. Et tu te dis, si le gars continue à faire 12 touches de balle, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas un mec qui est capable de lui dire. Le mec, ils sont intelligents, ils écoutent. Donc je dis aussi que c'est pour ça que je rebondis sur ton avis sur la faillite aussi de nos entraîneurs et de nos formateurs. Enfin, de nos formateurs, non, mais de nos entraîneurs. Parce que même en Ligue 1, si tu n'arrives pas à bonifier un Cherki, et peut-être qu'on y arrivera, et on y arrive avec Doué à Rennes en ce moment, c'est un drame.
Après, le joueur dont tu parles, il faut que dans le puzzle d'une équipe, il soit assemblé avec des mecs qui jouent un peu comme lui. Quand tu parles du Barça, de l'Allemagne en ce moment, machin, tu as des mecs qui ont les mêmes profils. Moi, je suis désolé, quand tu fais jouer Cherki et Kalumendo ensemble, bah moi, je me dis que c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'ils ne sentent pas le foot de la même façon.
Il y a 2-0. Entre un mec... Bien, regarde.
Oui, non, mais tout ça n'a rien à voir avec le résultat, puisque les résultats, bon an, mal an, avec parfois, comme à la Coupe du Monde, des matchs qui semblent un peu miraculeux.
Attention, il y a une remarque intéressante de Dr. Prince sur le chat qui dit au-delà de la technique, messieurs, la problématique reste aussi le QI foot. Ça, c'est encore un autre sujet.
C'est ce que j'appelle le travail technique dans le collectif avec effectivement l'intelligence de jeu. Mais l'intelligence de jeu, pour répondre à l'auditeur, pour la travailler, il faut que tu aies le temps. Et si le gamin à 16-17 ans, il intègre déjà le groupe pro, à part si c'est un ovni, comme de temps en temps t'en as un, c'est compliqué parce que t'auras pas eu le temps de travailler avec lui, t'auras pas eu le temps de faire de l'apprentissage vidéo, de machin. Il se retrouve avec les pros dans la concurrence, soumis immédiatement à l'obligation de résultat. C'est compliqué. En plus, s'il veut se barrer, soit il tombe dans un club où on va parfaire sa formation, et puis parfois on ne les suit pas les carrières, mais pendant 2 ans, il fait la une de l'actualité, il a pris son gros salaire, machin, et puis il faudrait suivre leur carrière, mais peut-être qu'au bout de deux ans, leur carrière, elle est terminée. Allez, ou ils se sont gâchés, quoi.
Je remercie Patrice d'avoir fait le 32-16. On va prolonger le débat, il y a beaucoup d'appels.
Il est dans le coup du deuxième but. D'ailleurs.
Je vous remercie Patrice d'avoir fait 32-16. On fait une pause. 2-0 donc pour l'équipe de France. Rapidement Patrick, le temps,
avec
le score.
Ce but de Andy Diouf, le Lensois, 81 minutes, 82 même, 2-0 pour les Bleuets de Thierry Henry face aux États-Unis.
Allez, pause, on va dans un instant pour le jeu débat qui passionne au 32-16 notamment avec Daniel et Flo. Vous écoutez RMC, c'est l'after, 22h44, on revient dans quelques secondes. A tout de suite.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
Avec Daniel Riolo, avec Flo Gautreau, c'est l'after sur RMC, 22h46. On va prolonger le débat parce qu'il semble passionner tous ceux qui nous écoutent autour de Flo et Daniel hein, sur la faillite technique du football français. Tiens, j'accueille tout de suite Yasser qui voulait réagir également. Salut Yasser.
Oh Francis.
N'importe quoi, rien à voir.
Salut Daniel, salut tout le monde.
Salut Yasser, bienvenue dans l'after. Bon.
Merci beaucoup.
Alors tu nous écoutes attentivement depuis tout à l'heure, je crois. Quel est ton regard là-dessus, toi ? Est-ce que déjà tu déplores cette carence française ?
Bah oui, parce qu'on est amoureux de football. Après, pas forcément. On va pas se mentir, en tant que supporter, enfin, juste en tant que supporter, non, c'est les résultats. Bien joué, avoir la possession du ballon, enfin techniquement, c'est plaisant, mais c'est réel. De finale de chaque compétition ou pas passer les points, c'est encore plus frustrant pour le supporter. Après, pour le côté forme,
non, mais tu vois, je parlais pas. Toi, j'avais envie qu'on essaye un petit peu, Yasser, de pas penser au résultat, parce que je l'ai dit, ça ne nous a pas empêché 2018 de gagner, de faire finale là. On a fait 1000 fois les débats de comment tu le fais et tout. Mais moi, j'avais juste envie, tu vois, j'ai vu l'Allemagne. Il y avait un vrai plaisir à voir jouer cette équipe, la façon dont elle jouait, elle bougeait et ce rapport au ballon. Et là, en fait, je me suis bloqué. Je me suis dit, mais en fait, le dernier joueur français qui t'a fait kiffer, tu sais, le kiff du joueur, par exemple, Nico, il était amoureux il y a 10 ans.
Johan Gourcuff.
Il le regardait jouer. Il y avait un vrai kiff. Tu vois, tu te disais, il va se passer un truc sur le terrain. Par exemple, moi, en ce moment, quand je regarde le PSG, Vitinha me fait kiffer en ce moment. Ce qu'il fait avec le ballon sur le terrain, ça va peut-être durer 2 matchs, 3 matchs, j'en sais rien. Mais par exemple, tu vois, tiens, arrêtons-nous juste 2 secondes sur le PSG. Warren, c'est un super gamin, il grille toutes les étapes et tout. Mais bon, ok, super. Mais tu le vois aujourd'hui à côté de Vitinha. Je dis pas que je préfère forcément Vitinha Warren parce que je l'aime beaucoup, hein, mais.
Non.
Je parle du rapport au ballon.
Vitinha, je pense.
Je préfère le rapport au ballon, le profil technique. Warren, c'est un des fleurons de notre formation. Il fera peut-être une super belle carrière. Il est très performant. Mais son rapport au ballon, ça n'a rien à voir avec Vitinha. C'est ça, on va bien se comprendre. Je ne parle pas de performance. Hein. Moi, j'aimerais kiffer sur un joueur français. Il n'y en a pas.
Je suis d'accord avec ce que tu dis, Daniel. Mais ces joueurs-là, quelque part, on les a eus. Et je ne suis pas en train de victimiser la génération 87. Mais les Ménès, les Benarfa, les Nasri, on les avait. Peut-être un peu trop starifié, peut-être un peu trop la grosse tête. Ça ne nous a pas permis de les garder à un niveau de performance tel qu'on les a passés 13 euros pour les Coupes du Monde alors qu'ils étaient présents. On aurait pu miser sur eux autant que Karim Benzema.
Ils se sont grillés tout seuls, hein, les mecs, hein, avec la mentalité. Et parce que aussi, on les a, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, quand tu fais aussi jeune, tu les montes en star et tout. Leur intelligence de jeu, elle était très faible aux joueurs que tu as cités. Enfin, je parle de Ben Arfa. Hein. Nasri était quand même plus intelligent, bien sûr.
Bien sûr, parce qu'on a gagné sans eux, et moi, c'est pas de problème à ce moment-là. Mais on les déplore, ces joueurs-là. Et est-ce que, du coup, avec ces starifications de joueurs et le fait qu'on puisse dire qu'on a l'impression de rencontrer Dan, etc., et c'est ça qui cause problème assez techniquement, bon. Parce que tout le monde mire sur eux directement. Et du coup, nous, on en profite.
Oui, mais tu vois, l'autre truc aussi, c'est qu'il ne faut pas penser qu'il y en a un dans l'équipe ou il y en a deux dans l'équipe. Oui, ok, c'est très bien, t'as un mec, t'as des manieurs de ballon, t'en as un, t'en as deux, mais en fait, il en faut dans toutes les lignes. Il faut que la relance de derrière, elle soit propre. Il faut qu'au milieu de terrain, devant la défense, t'as un. Enfin, tu vois, c'est pas genre. Il y avait Ben Arfa. Ah, et en plus, c'était pas un milieu de terrain, Ben Arfa, tu vois. Moi, je parlais vraiment des milieux. Tu vois, c'est pas un mec isolé qui va avoir la lumière dans une équipe. Il faut que le puzzle, il soit fait avec. Je sais pas, l'Allemagne, là, je te refais la liste. Quoi. Tu les regardais sur le terrain. Kroos, Gundogan, Musiala, Kimmich, Havertz,
Wirtz.
Quasiment à tous les postes, tu avais des beaux joueurs de foot. Quoi, tu vois, bon.
Yasser, merci d'avoir fait le 32-16. Hein, la liaison n'est pas top, malheureusement.
Ouais, malheureusement
tu reviens quand tu veux, Yasser. Tiens, on va accueillir un homme qui nous écoute, hein, qui était avec nous. Ah, oh là là les gars, il y avait 2-0 quand j'ai baissé la tête, il y a 2 partout. Entre les U23, l'équipe de France et les États-Unis. Patrick Muller, qu'est-ce qui s'est passé ?
Ah bah ils ont tout renversé en deux minutes, hein, les joueurs des États-Unis, avec d'abord Yo qui place une superbe frappe. Hein, le but de Diouf pour le 2-0 français était
superbe.
C'est qui
le mec qui est rentré avec sa permanente colorée là,
hein. Jérôme Breton, ça, c'est pelon.
Ouais, c'est ça, c'est l'auteur.
Non, on dirait machin, tu sais, on dirait
Kate Cowell.
Il s'appelle. Comment il s'appelle là, le demi d'ouverture Sudaf.
Ah oui, bien sûr.
Le petit bonhomme qui a une physique super drôle là.
Qui est rentré. Vas-y, en quart de finale. Vas-y.
C'est ouf ça.
Et de partout, donc l'égalisation avec ce joueur dont vous parlez, Cowell. Et bah, tout s'est écroulé en deux minutes pour ces Français qui semblaient maîtriser les débats dans une deuxième mi-temps qui se joue sur un faux rythme.
Faf de Clercq.
Exactement.
Comment il s'appelle, les espoirs. Moi, je suis désolé, évidemment, il le dira jamais et tout, mais je suis sûr, je lis dans son esprit. Thierry Henry doit se dire putain, franchement, les joueurs que j'ai, c'est pas dingo.
Mais il pourrait en ajouter 3 depuis 23 ans, on en parlera tout à l'heure. Je le disais, il nous écoute depuis tout à l'heure, il était avec nous à Abidjan, ancien footballeur, ancienne légende brestoise notamment, ancien joueur du RC Lens.
Pas que,
bon, c'est 15 clubs, hein, Montpellier, Grenoble, Wascal, Toulouse. Non, il est avec nous là.
Il a fait mieux que
Robert Malm est avec nous.
Oh là, Xavier Gravelaine, Robert, t'as battu Xavier Gravelaine dans le nombre de clubs, je suis pas sûr.
Non, je pense pas.
Je suis pas sûr. Je crois qu'il en a avoir un ou deux de plus que moi, Flo.
Ok.
Oui, il y a une quinzaine pour Robert. Tu nous écoutais, Robert. T'écoutais l'avis de Daniel à l'instant et tu m'as envoyé un message pour me dire effectivement, il faut déjà que nos joueurs fassent des gammes techniques à l'entraînement. Est-ce que c'est le cas, toi, qui as été formé en France et qui voit encore sur les terrains les jeunes joueurs français? Est-ce que c'est ce que tu constates?
Écoute, alors je veux pas dire que j'étais à la vieille école, mais. Sur chaque séance, tu avais droit à tes gammes techniques, à tes répétitions. Je vous ai entendu tout à l'heure, contrôle pied droit, passe pied gauche, et ainsi de suite. Et beaucoup de choses comme ça qu'on ne fait plus. Aujourd'hui, tu vas à tes formations d'éducateur, il faut tout de suite tout mettre dans le jeu. Tout de suite. Donc, ce qui fait que tu as des garçons aujourd'hui qui... Et Daniel le disait, il y a des garçons aujourd'hui qui techniquement ont du mal. Mais déjà, quand tu fais des gammes techniques déjà avec les plus jeunes et que des passes à 10, 15 mètres sur une série de 30 passes, t'en as 10, voire 12 qui passent à 2, 3 mètres à côté, là t'as un problème, t'as un gros problème. Je pense que dès les tout petits, dès l'école du foot, il faut déjà remettre ces choses-là en place. Mais comme on veut tellement aller vite... On veut tellement les faire progresser et on pense qu'au jeu, le mouvement, il viendra après. Quand tu prends les équipes de Coco Ciodo quand ils sont champions, je veux dire, demande à tous les mecs du FC Nantes s'ils n'ont pas bouffé des gammes techniques, des fois vides.
Ils ont des heures d'entraînement par semaine sans ballon, notamment. Ouais.
Oui, mais avec des choses bien précises et qui te permettent, comme dit Daniel, d'avoir un rapport au ballon. Mais aujourd'hui, oui, c'est vrai, il faut le constater qu'on ne travaille plus ça, qu'on ne le travaille plus du tout. Et c'est le béaba, j'ai rien inventé. Hein.
Et de toute façon, ça ne va pas changer parce que les résultats, t'en as avec Léa, enfin, tant que Deschamps est là. Oui. Et les clubs, de toute façon, vu que la plupart ont basé leur économie sur la vente de joueurs, tu sais, quand ils vendent un tel à 18 ans au Bayern, quand ils vendent, je ne sais plus, qui était parti très tôt, là, comme ça, ça leur va. Parce que les clubs bossent aussi là-dessus et vivent là-dessus. Donc, il y a les Portugais, je ne sais pas si tu sais ça, Robert, tu vas me dire ce que tu penses de ça. Les Portugais, ils ont un championnat qui s'appelle un championnat révélation. C'est pour les U23, c'est les réserves des clubs pro qui s'affrontent.
Oui.
Et ça leur permet donc de plus bosser. Alors après, pardon, un club comme le Sporting, il faut savoir, c'est une académie extraordinaire, le Sporting au Portugal. Eux, ils sont dans la fabrique de joueurs, ils vendent également. Mais ils ont une telle quantité, ils bossent sur la technique, ils vendent, ça leur fait pas peur de vendre exactement comme nous parce qu'ils sont dans la même économie, mais ils insistent à mort sur tout le côté technique.
Mais je suis d'accord avec toi. Et eux, j'irais même plus loin, eux les vendent, j'irais même après la post-formation, c'est-à-dire que ces joueurs-là, non seulement ont eu toute l'éducation technique, ils jouent effectivement dans des championnats de réserve où techniquement tu es obligé d'être bon, mais ils vont quand même en équipe première. Et quand ils vont en équipe première, il faut quand même une, voire deux saisons. Et c'est comme ça après qu'on les voit, on se dit ils sont tous passés par le championnat portugais à un moment donné, et tu te dis waouh, techniquement, ça a le niveau. Pourquoi nous, on n'est pas capable de faire la même chose?
C'est vrai, Robert. Moi, ça fait penser aussi à l'exemple de l'AS Monaco. J'en ai parlé avec Damien Perrinel. Il y a le groupe élite à l'AS Monaco. On a sorti les jeunes de Monaco.
Absolument.
Des championnats nationaux.
Absolument.
Pour pas que les mecs se tabassent ce week-end avec des mecs de 33, 34 ans, des bêtes physiques, pour parfaire leur qualité technique notamment. Pour leur donner le temps de grandir et d'améliorer leur qualité naturelle. C'est tout le sens du travail à Monaco. C'est pas le seul Monaco, le seul club à le faire. L'idée est là aussi. Bonifier les qualités naturelles avant les lancer très vite.
Attention.
Face à des gaillards, face
mais
à des adultes.
Attention, il ne faut pas tout raccourcir. La technique, moi, devant la télé samedi soir, encore une fois, effectivement, le fameux rapport au ballon, parce que j'ai toujours kiffé ces joueurs-là, ça ne peut pas tout faire. Quand tu prends un Pastore qu'on adorait tous, qui fait kiffer les supporters du PSG encore maintenant, on n'a pas oublié que physiquement, il avait un problème, c'est que dans le football actuel, là, il ne tenait pas l'intensité, son corps n'a pas suivi. Donc, évidemment qu'il ne faut pas délaisser le reste. Le joueur parfait, on va dire en ce moment, le prototype, c'est plutôt Bellingham qui a et le physique et la technique. Et puis, une fois que tu as la technique, je disais tout à l'heure qu'il faut la mettre au service du collectif et bosser beaucoup le QI football. Le QI football, c'est savoir à quel moment tu fais la passe. Comment tu te mets tout de suite sur un contrôle dans le sens du jeu.
C'est ça, l'orientation du corps.
Et voilà, l'orientation du corps.
Exactement, être de trois quarts, savoir... avoir le champ de vision le plus large possible sur le terrain qu'au moment où tu vas recevoir le ballon. C'est vrai que c'est pas non plus que contrôle passe, mais c'est aussi, comme tu le dis, savoir se positionner où il faut, avoir la bonne orientation, les épaules dans la bonne direction, et savoir si quand le jeu te demande de jouer en une touche, voire deux touches quand la situation te le demande, dribbler quand il faut, parce qu'il faut pas non plus oublier qu'il faut être capable aussi d'éliminer quelqu'un, justement pour pouvoir faire soit le décalage, soit garder le temps d'avance que tu avais au départ, et pourquoi pas pour conclure. Mais tout ça, on est capable de le faire. Sauf qu'aujourd'hui, le maître mot qui est le temps ne l'a plus. Le temps, aujourd'hui, il faut aller très vite, il faut vendre cher. Et à un moment donné, tes joueurs, des fois, t'es coincé. Et puis, t'es tellement étranglé financièrement que ton meilleur joueur, tu vas le vendre alors qu'il n'est pas fini. Tout ça fait qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'effectivement, techniquement, il nous manque quelque chose. Il manque cette chose, mais...
Juste pour kiffer un peu, pour prendre un peu de plaisir quand tu regardes les mecs.
Exactement. Mais moi, tu sais, je pars des tout petits. Mais rien ne t'empêche chez les pros de continuer à progresser, à travailler techniquement.
Oui, sauf un point, un détail qui me semble... Daniel l'a évoqué. Le problème, tu fais jouer les joueurs en équipe première, les coachs de l'équipe première... Tu as la sensation qu'ils sont eux-mêmes dans une urgence telle qu'ils ne sont pas là pour, malheureusement, faire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, le corps, à moitié tourné vers l'avant,
Tu vois, c'est l'obsession Guardiola. Guardiola le fait en permanence, c'est l'entraînement de tous les jours. Sauf que la bonne surface de pied, l'orientation du corps.
Mais tu vois, j'ai entendu que Thierry Henry, j'ai parlé de Calimundo tout à l'heure, j'ai entendu que Thierry Henry faisait ça. Et tu sais, dans des rassemblements où il a parfois presque paradoxalement un peu plus de temps, avec Calimundo, tu as des trucs d'attaquant. Mais c'est vrai que malheureusement, les jeunes montent très vite en équipe première. Là, le coach, il leur dit, tu rentres, tu machines. Est-ce que vraiment il a le temps de le refaire, travailler, progresser? Oui, sans doute, pour certains d'entre eux, bien sûr, mais pas tout le temps. C'est là où on est totalement dans l'urgence.
Après, on parle de mecs qui sont, pour les Bleus qu'on a vus samedi, malgré ce que j'ai appelé une faillite technique par rapport aux Allemands, bon, il y en a, ils sont titulaires dans des grands clubs, mais Marcus Thuram, que moi je trouve très faible physiquement,
techniquement.
Bon, à l'Inter, peut-être qu'avec Lautaro, parce qu'il est à côté d'un attaquant qui est beaucoup plus fin, l'association peut peut-être un peu marcher. Je ne sais pas de quoi
c'est aussi, son c'est, futur. C'est aussi pour cette raison que Flo veut développer un avis sur un retour au 3-5-2 qui pourrait beaucoup aider Marcus Thuram. Robert, merci d'être venu.
Merci,
Robert. Avec grand plaisir.
Avec grand plaisir,
les amis.
À très bientôt. Rentre bien. Bonne soirée à toi. Dans un instant, l'avis de Flo, justement, qui demande à Didier Deschamps de sortir du placard le 3-5-2. En tout cas, pour demain soir, c'est raté. Ça, on l'a appris avec la compo probable. Restez avec nous, c'est l'after avec Daniel et Flo. C'est terminé donc entre la France et les États-Unis. Match U23, mon cher Patrick.
Effectivement, de partout, score final avec ces Français qui menaient 2-0 jusqu'à la 85e minute. Les buts étaient signés Calimundo sur penalty et puis Andy Diouf à la 70e et 19e. Et les États-Unis qui sont donc revenus. Les États-Unis, rappelons-le, prochain adversaire des Français à l'occasion du tournoi olympique. Ce sera à Marseille le 24 juillet prochain.
Merci Patrick, bonne soirée à toi. L'after revient dans quelques secondes sur RMC. À tout de suite.